repérage du bibliothécaire.
Bonjour, monsieur Benigno.
Et bonjour, Marc. Comment ça va? C'est moi, légèrement chaud, mais avec un petit peu de froid.
Ok, ça commence à sentir un peu l'automne, je trouve.
Oui, l'automne et la rentrée littéraire, justement, qui, dont on va brièvement parler. Ça commence gentiment, en effet.
Bonne idée. Puis les gens, ils ont bien travaillé au mois d'août.
Et quel genre? Tu parles de qui?
De nos chers lecteurs.
Oui. Ça, c'est...
De tout ce beau monde.
Ça arrête jamais.
Ça arrête jamais, d'accord.
Ah oui. Et puis, ça produit des bonnes choses. Alors, on va en parler un petit peu, si tu veux.
Ouais, très, très volontiers. On est là pour ça, je crois.
Alors, essayons.
Donc, voilà, dans la liste de ce mois d'août, qu'est-ce qu'on a de beau?
Alors, cette liste est particulière parce qu'il y a beaucoup, évidemment, comme toujours, hein, des bons livres, des livres très riches. Il y a une spécialité qui n'est pas coutume, c'est qu'on a une belle petite brochette de livres qui concernent, dans son sens le plus ample, le monde scientifique, que ce soit l'espace, que ce soit les plantes, donc toutes les problématiques de plantes, que ce soit toute une réflexion sur l'existence des extraterrestres, l'origine de la Terre, de la vie dans la Terre, et un livre aussi qui est, donc voilà, un de ceux dont je veux parler, que j'avais mentionné déjà précédemment, qui est ce fameux livre de cette médecin d'origine indienne, mais naturalisé américain, qui s'appelle Siddhartha Mukherjee, qui est l'histoire de la génétique. Ça s'appelle « Il était une fois le gène », qui est enfin fini, enfin disponible. C'est un livre vraiment des références en tant que livre de vulgarisation pour comprendre ce que c'est que la génétique, les phénomènes, l'histoire, la découverte. C'est vraiment un roman presque de suspense. Depuis tous ces première tentative de comprendre comment les plantes se mélangent, l'évolution des plantes, mais aussi tous les travaux qui ont été faits pour la découverte du code génétique et après tous les travaux dans la médecine, la thérapie génique, les mutations. Tout c'est vraiment expliqué d'une manière claire, précise et en même temps agréable à écouter. Donc ça s'appelle « Il était une fois les gènes » et le numéro c'est les 66 000 020. On est tellement loin déjà que j'ai presque du mal à dire les numéros.
On ne sait plus compter.
Absolument. 66 000 020.
Puis j'allais faire un mauvais gag. Quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir.
Ah oui, mais là, en tout cas, il y a plaisir de lecture, ça c'est clair. Donc ça, vraiment. Donc ça, c'est de la science. Bon, il y a aussi les livres que tu as, il me semble, lu sur ces fameux astronautes américains et nos décès dans l'espace.
Et donc, Scott Kelly,
oui. Scott Kelly, oui, 340 jours en orbite, et il faut le faire, donc 65 858, et je ne vais pas en parler de tous, parce qu'on va parler quand même des choses qui sont pas scientifiques, mais bon, je suis content qu'on ait, pour ceux qui aiment un peu aussi bien la science, mais d'un point de vue accessible pour tout le monde, bien sûr, qu'on ait ce mois-ci une petite collection de livres, entre guillemets, sérieux, mais intéressants.
En tout cas, c'est pour celui-ci, je peux dire que ça vaut la peine. C'est intéressant de savoir un petit peu comment les gens fonctionnent actuellement avec ça.
Oui, tout à fait. Donc là, il y a ces quatre livres. Et puis, on a, alors, dans le domaine de la fiction, évidemment qu'il y a toujours une bonne brochette de policiers, il y a, pour fêter la rentrée littéraire, les derniers livres de cet auteur certainement inconnu hein, de nos auditeurs, qui est Amélie Nothomb, qui...
C'est qui, ça?
Ah oui, Amélie Nothomb, on ne connaît pas.
Non, j'en ai entendu parler.
Alors, il paraît qu'Amélie Nothomb aime bien les bulles, et ça tombe bien parce que son dernier livre s'appelle Soif, justement. et donc, c'est... Mais ne vous méprenez pas, et c'est un livre sérieux, si l'on peut dire, puisque... Et Amélie Nothomb, dans son dernier livre qui vient de sortir, là vraiment il est sorti, je crois, une semaine en librairie, il est déjà disponible chez nous. à l'écoute. Et le sujet du livre est rien de moins que Jésus. Jésus, le Christ. Et s'appelle Soif, pourquoi ? Parce que c'est tous ces moments de l'agonie de Jésus, la Golgotha, etc. Et Amélie Nothomb, il entre et il essaye de s'imprégner de ces moments-là, elle est décrite dans son livre. Donc c'est un peu particulier dans la palette des sujets qu'elle a traité, Amélie Nothomb. Donc ça s'appelle Soif et il est disponible le numéro 66049. C'est là que je m'habitue à 66.
on y arrive.
On ne va pas arriver trop vite à 666. mais 66049. Et puis, alors après, il y a deux livres qui ne font pas forcément de la rentrée littéraire du point de vue de l'immédiateté de la parution, mais pourtant, c'est des livres importants, chacun dans son style et dans son genre. Il y a un livre d'un écrivain américain qui s'appelle John O'Hara, qui est donc d'origine irlandaise à un moment donné, mais le livre s'appelle « Rendez-vous à Samara ». Et pourquoi ? Alors, si on connaît cette histoire, ce petit conte d'origine arabe, qui est le suivant, il y a un homme, un serviteur qui est envoyé par son seigneur au marché, et dans une ville, à Damas, il va acheter des produits, et puis tout d'un coup, il voit la mort, et la mort le regarde fixement. Et tout, avec un certain étonnement comme ça, puis il a peur, et puis il dit, ouais, j'ai vu la mort qui me regardait fixement, et puis, alors je m'en vais, parce que la mort peut-être qu'il me cherche, alors je vais partir, et puis les serviteurs, ils s'en vont, et ils courent, et il va se réfugier dans une ville qui s'appelle Samara, proche, et puis, son maître, rencontre la mort, il dit, mais pourquoi tu fais peur à mon serviteur? Il est parti en courant, pourquoi tu l'as fait peur? Il dit, non, je ne le faisais pas peur. Je l'ai juste regardé avec étonnement parce que, en fait, on a rendez-vous cette nuit à Samara. Donc, voilà. Mais donc là, c'est l'histoire, en fait, concrètement. Bon, ça, c'est l'excerpt du livre, mais le livre lui-même parle de la descente, on va dire, aux enfers, littéralement parlant, d'un Américain. Moyen, en principe, qui en plus s'appelle Julian English. C'est un jeune homme qui vit aux États-Unis entre les années 20-30 et dans une petite ville de Pennsylvanie et que, en fait, une sorte de confiture de ces personnages qui est en pleine loi, en pleine prohibition. Et on n'a jamais bu autant qu'à cette époque-là. On connaît, rien que de lire les 50 premières pages du bouquin, tu as ton taux d'alcoolémie déjà grimpe à 2%. c'est extrêmement bien écrit d'ailleurs. Il a été comparé à Hemingway, il a été comparé même à Balzac, et Hemingway lui-même, qui pourtant était parfois avare des compliments, il a dit que c'était un roman magnifique, qui était un auteur maîtrisant parfaitement ce sujet. Je sais pas si c'était... Bon, Hemingway maîtrisait aussi bien ces sujets-là.
Mais
disons que le livre, il est extrêmement bien écrit et ça montre un peu c'est comment on... Parce que c'est pas l'alcool, c'est un peu un toile de fond, si j'ose dire, ou un arôme de fond, mais c'est l'histoire de comment des petits gestes qu'on fait, comment une petite chose, un petit élément peut, par bulle de neige comme ça, conduire à une sorte d'événements, on va dire, tragiques, mais je ne raconterai pas les détails. Et donc, le livre s'appelle « Rendez-vous à Samara » de John O'Hara, et puis c'est le 65866. C'est un classique de la littérature américaine du XXe siècle. Donc, ça pour ce livre. Et puis, plus proche de chez nous, parce qu'il faut quand même valoriser la littérature locale, il y a un auteur... Et originaire de Genève, mais qui, si je ne m'abuse, habite à Fribourg maintenant, il s'appelle Michel Perruchou. Je ne sais pas si tu connais, entendu parler de Michel Perruchou.
Oui, ça me dit quelque chose, hein.
Qui est d'ailleurs, il est aussi musicien, si je ne m'abuse, mais il est plein de choses. Alors, Michel Perruchou, et ses romans, c'est son premier, mais qui a été réédité, parce que justement, c'est un roman qui est pas mal, un roman historique, qui s'appelle Cressel et ses brigands. Alors, Et quel est l'écart de l'histoire? C'est que, je ne sais pas si... mais certainement, tu sais. Bon, il y a une époque, il y avait les calendriers juliens, les catholiques ont adopté les calendriers grégoriens, et puis à Genève, ensuite, d'ailleurs, il y a surtout... Les réformés n'avaient pas encore adopté, et ça faisait ça créait un petit peu des embrouilles, parce qu'on n'avait pas les mêmes dates. Mmh. Et Genève décide, pour finir, que l'année, pour un peu équilibrer tout ça et couper les jours qui posent problème, l'année 1701 va commencer, pas le 1er janvier, pas les deux, va commencer le 12 janvier. Mm-hmm. Donc, le deux paf, on va liquider 11 jours comme ça pour que l'année commence le 12 janvier. Et puis, qu'est-ce qu'on fait ces jours-là? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer qui se passerait dans ces jours qui n'existent pas? Et il y a une jeune fille qui s'appelle Cressel. On l'appelle Cressel parce que sa voix, bon, tu vois une Cressel, quoi. Et donc, qui est une fille timide, qui est fine dans l'horloger. Alors, elle décide d'imaginer, d'écrire ce que peut se passer dans ces 11 jours-là. Et donc, dans ces jours-là, il va rencontrer des personnages, il va se passer plein de choses, mais dans cette histoire, il est question aussi des Huguenots qui s'installent à Genève. Bon, bien sûr, c'est déjà une ville protestante, mais il y a des Huguenots qui viennent, qui se réfugient en fuyant la France. Comment ils sont reçus? Comment sont reçus ces migrants, hein? Parce qu'à l'époque, c'était des migrants qui viennent, et il y avait déjà les Huguenots italiens qui sont venus, bon, qui ont fait des grandes familles, comme c'est les Turrentini et tout ça à Genève. Et il y a ces Huguenots français, d'ailleurs, qui viennent se réfugier, parce qu'évidemment, on peut dire que les... Il y avait beaucoup de bois à l'époque, et du coup, ça pourrait créer des
beaux bûchers.
Donc, mais c'est pas si facile que ça, cette intégration. Donc, il y a ce monde, et puis il y a le monde des brigands. C'est pour ça que ça s'appelle ces brigands, parce qu'il va côtoyer un certain nombre de brigands qui vont faire des leurs. Et puis, le livre, il est très riche parce qu'il décrit très bien cette ambiance, cette époque, depuis la fin du 15e, les au 16e siècle la nourriture, les repas, comment les gens mangeaient, comment buvaient, c'est vraiment une ambiance, c'est très, 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 très charnel, très bien décrit. Et donc, on peut s'imprégner de cette ville genevoise, avec ce livre de Michel Perrouchou qui s'appelle Cressel et ses brigands, avec le numéro 65874. Alors, il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais pour laisser la place à les autres choses qui sont sur le feu et pour laisser la place aussi à nos auditeurs et nos auditrices de découvrir les choses, je vais juste faire mention que ce numéro de BSR Actu, outre Michel Perrouchou bien sûr, est aussi riche en grands auteurs suisses et avec des textes qui n'avaient pas été lus, aucun n'existait pas de cette manière-là. Par exemple, Nicolas Bouvier. Qu'on ne présente plus. Il y a deux petits essais, un qui s'appelle Genève, qui parle de Genève à la manière de Nicolas Bouvier, et un autre très haut en couleur qui s'appelle La Suisse est folle. Et c'est un petit livre, mais très très pétillant, bon, à la manière de Bouvier, et en même temps très érudit, qui est avec le numéro 66018. Et pour accompagner Bouvier, pour qu'il ne se sente pas seul, il y a Jacques Chessé, que nos amis français appellent parfois Chessex. Pendant un certain temps, il a été chroniqueur dans l'Hebdo, qui n'existe plus malheureusement. Mais ses chroniques, aussi avec les styles percutants des Chessé, ont été réunis et publiés ensemble, enfin pour la première fois en volume, et sous le titre « Dire la gloire et la menace ». Et cette anthologie, ce recueil des chroniques des Chessé, a été lu et est disponible avec le numéro 66033. Donc, on a Perrouchou, Bouvier et Chessé.
Il faut encore dire que le Chessé, le numéro 1 du catalogue de la BSR, c'est toujours l'ogre de Chessé, non?
Ah, oui, je crois.
Il me semble.
Donc voilà, donc on a Chessé au début et Chessé maintenant.
Eh ouais, bravo.
Voilà. Voilà pour l'aperçu de ce qui a été lu.
Et qu'est-ce que nous avons en production?
Alors, en production, il y a, comme toujours, énormément de choses dans tous les genres. Mais je vais profiter pour parler de deux livres qui sont à lecture et qui concernent, justement, la fameuse rentrée littéraire. Donc, parmi ces deux livres des auteurs français, il y a un livre de Laurent Binet. Laurent Binet, qui s'était fait remarquer il y a quelques années par un livre qui s'appelle HHHH, qui s'est trouvé à l'époque nazie, et ensuite par un autre qui s'appelait La septième fonction du langage, qui a fait du bruit parce qu'il mettait, il s'amusait beaucoup à caricaturer un certain nombre des personnages de l'intelligentsia française, entre autres. Et dans celui-ci, Laurent Binet va loin. Parce qu'il imagine la chose suivante. Alors imagine que, suite à toute une série d'événements, dont certains sont vraiment passés, mais pas exactement de la manière qu'il les raconte, ce soit au lieu d'être les Européens qui découvrent l'Amérique et qui la colonisent, ce soit l'inverse qui se passe. Et comment est-ce que ça aurait pu se passer? Qu'est-ce qui a manqué? C'est ça un peu, un peu le pitch du livre. Qu'est-ce qui a manqué aux grands empires, Inca, Aztec, etc., pour avoir le pouvoir pour vaincre les Espagnols? Il leur a manqué les chevals, il leur a manqué les fers, les armes à feu, bien sûr, et il leur a manqué les anticorps. Mm-hmm. Parce que l'une des causes principales des mortalités, ce fut les choses qui ont apporté les Européens comme maladie, mmh. qui n'étaient pas mortelles à la base pour les Européens en tout cas, mais qui ont décimé. Et donc, il se trouve, il crée l'histoire à l'envers. Alors, il y a, et ça c'est attesté historiquement, mais pas exactement de la manière dont il l'a dit, parce qu'il se met dedans, bien sûr, et les Vikings, c'est les premiers à être arrivés en Amérique.
Ouais,
alors, il imagine que les Vikings sont arrivés, mais qui sont non seulement arrivés et repartis, mais qui sont entrés et arrivés en apportant, évidemment, leur le cheval qui l'amenait très tant, un bateau étrange, et les fers et autres, et aussi les maladies. Mais comme ils sont allés en douceur, il y a beaucoup d'Amérindiens qui sont morts, mais petit à petit, ils ont créé les anticorps. Mmh. Et quand les Espagnols sont décidés à venir, ils étaient déjà prêts. Et ils ont utilisé leur caravelle, leur bateau, pour faire un sens inverse, parce qu'il y a toute une histoire qui se passe au niveau des Incas, justement, il y a des guerres, il y a deux... Mais je ne vais pas évidemment tout raconter, parce que, mais c'est extrêmement ingénieux comme histoire, parce que dans la littérature, il y a la vérité, et il y a ce qu'on appelle la vraisemblance, qui est quelque chose qui aurait pu être. Et donc, lui, il joue beaucoup avec ça, et c'est extrêmement... Je dirais stimulant. Vous imaginez le contraire, en tout cas une autre manière de voir le monde. Et donc c'est Atahualpa, les Incas Atahualpa, qui va débarquer en Europe et ça va tout changer. Mais je ne vais pas raconter davantage. Sachez qu'il y a tout le monde là-dedans, il y a Luther, il y a les rois Charles Quint, mais ça ne se passe pas comme prévu.
Alors. D'accord, ça donne bien l'eau à la bouche.
Oui, là, il est pas mal. Il y a lecture maintenant. Alors c'est les civilisations. Et puis un autre livre de la rentrée. Et c'est une autre autrice, il faut que je m'habitue, qui s'appelle Jannick Granek, dont on a écrit, dont on a lu, pardon, deux livres à la BSR. Et là, c'est aussi un livre de la rentrée qui s'appelle Les Simples. C'est une femme, donc ça s'appelle Jannick, mais c'est une femme. Et le livre s'appelle Les Simples. Alors, c'est quoi Les Simples? On est à une époque qui n'est pas trop loin d'ailleurs de celle des Crécelles, mais un petit peu en avant. Avant, c'est c'est 1584, donc c'est l'époque où il y a la réforme déjà, mais en l'occurrence, là on est en Provence et tout se déroule autour d'une abbaye, ou plutôt d'un couvent, parce qu'il y a un couvent des nonnes, des sœurs bénédictines, et qui ont une particularité, c'est que à cause de quelque chose qui sont faites, qui ont aidé le roi de France et autres, ils ont une sorte d'autonomie par rapport à l'évêque, etc. Et elles produisent, entre autres, des simples, donc des médicaments à partir des plantes qui ont des vertus miraculeuses. Mais l'évêque, il aimerait bien s'emparer du couvent de cette manière, parce qu'il y a des revenus à obtenir, parce qu'il y a aussi, des reliques, les reliques des saintes Vérane, une sainte importante, c'est toujours important les reliques, c'est toujours utile, on va dire. Et donc, il essaye de trouver le moyen de s'emparer du couvent, et il y a plein de choses qui se passent. Le livre, il est très bien écrit, très bien documenté, ça donne vraiment l'ambiance de l'époque, et comme détail supplémentaire, mais on en reparlera, Le Simple et Jannick Grenec seront présents parmi les lectures organisées par la BSR pendant le livre sur les quais à Morges. Donc, il y aura une lecture des Simples en présence de l'autrice.
Et pour l'avenir, je pense que ta table, bien que je ne la vois pas actuellement...
Alors, imagine, je vais te... Qu'est-ce que tu as entendu, là?
Ouh, un gros pavé.
Un gros pavé. Alors, bravo. Alors oui, en effet, parce qu'il s'agit d'un livre aussi de la rentrée littéraire, qui va faire du bruit, et pas seulement sur la table, je pense. Mais qu'en effet, c'est un gros pavé. Et d'un auteur allemand qui s'appelle Chris Krauss, ce qui est assez drôle d'ailleurs parce que, d'ailleurs, il y a pas mal de gens, y compris dans, dans la librairie, qui n'étaient pas au courant. Et il y a deux écrivains qui sont homonymes, mais qui ne sont pas du tout la même personne, qui s'appellent Chris Krauss. Il y a une femme américaine qui écrit des livres où il y a toute question aussi de la sexualité des femmes, etc. Et puis il y a cet auteur qui est un homme allemand, qui n'a absolument rien à voir, mais ça s'écrit exactement la même chose, nom et prénom. Et il y a plein de gens qui pensent que c'est la même personne. Ce n'est pas le cas. En l'occurrence, on parle de l'allemand. Et le livre a été traduit, et pour une fois, je suis plus d'accord avec les noms, avec les titres de la traduction qu'avec l'original, mais semble qu'il était plus adapté, une fois n'est pas coutume. Alors, le livre en allemand, le titre original c'est Kalteblüte, mais je sais pas si je prononce bien, mais en tout cas, en français, elle s'appelle La Fabrique des Salauds. Et c'est exactement ça. Et La Fabrique des Salauds, c'est l'histoire, c'est une longue histoire, et le livre se déroule de 1905 à 1975, donc longue période, alors dans l'environnement allemand. Mais à l'origine, ça commence en Lettonie, donc dans les Pays-Baltes, parce qu'il y a une communauté allemande importante dans les Pays-Baltes. Mmh. Et alors, évidemment que les Pays-Baltes, comme aussi l'Ukraine, etc., ont été un peu malmenés par l'histoire, parce qu'il y a ces colonies allemandes, il y a eu l'Empire russe, ensuite, après l'Empire russe, il y a eu les soviétiques, mais il y a eu les nazis, et après les soviétiques, etc. Et c'est l'histoire des deux frères, dont un est le narrateur, celui qui raconte l'histoire, qui sont de cette communauté allemande. Alors l'histoire commence de manière assez drôle, c'est un procédé littéraire. Et le livre est terrible et en même temps il y a beaucoup d'humour. C'est assez curieux. C'est un hôpital parce qu'un des deux frères, Kojak, qui est là parce qu'il est déjà un peu âgé, et il se trouve en Bavière. Donc, tu sais qu'en Bavière, il y a une ville assez particulière, notamment si on parle de la pré-deuxième guerre mondiale. Il est dans cet hôpital, on est dans les années 70, il a une balle dans la tête, enfin, on lui a tiré une balle dans la tête, on n'a pas pu le sortir la balle de la tête, donc il est là, et puis il attend son heure, mais il est en pleine forme, enfin, à part sa tête. Mm-hmm. Et il est à côté d'un hippie, parce que c'est dans les années 70, qui a aussi un gros problème dans la tête, on ne va pas trop raconter, et les hippies deviennent un peu son témoin, parce qu'il a besoin de raconter son histoire. Mm-hmm. Et donc là, il raconte toute son histoire de toute sa vie, son enfance, à Rigue, son frère, comment il est passé partout. Il est devenu nazi, un peu malgré lui, mais quand même. Il est alors qu'il était artiste, qu'il était peintre même des talents. Et il est devenu par la suite agent du KGB. Ensuite, il a été recruté par les services allemands après-guerre, qui se trouvaient être dirigés la plupart par des ex-nazis, qui ont été repris par l'Allemagne, et ensuite il devient même agent du Mossad et de la CIA. Et il devient agent de tous ses services, un jongleur vraiment sur la corde raide, et avec mal à l'aise, mais en même temps s'en sortant avec humour et avec une certaine dose de tragédie aussi. Et le livre est génial parce qu'il parle de plein de choses qu'on ne savait pas, qu'on connaît mal, comme les rapports justement entre les services secrets israéliens, les services secrets allemands dans les, après, parce que c'était pas facile, évidemment, il y avait tous ces problèmes, les rôles de la CIA, justement, dans tous ces schmilblicks, et en même temps, la situation des gens, des êtres humains, dans toutes ces périodes-là, c'est assez spécial, c'est assez particulier comme livre, je pense que ça, on va certainement entendre parler, et en tout cas, en Allemagne, ça fait un tabac, et je pense qu'ici aussi, parce qu'il a, il a été bien traduit, en plus. Donc, ça s'appelle « La fabrique des salauds ». Il est sur mon bureau avec ses 870 pages en attendant une courageuse ou un courageux le pour clair. Le lire.
Bravo. Bravo à celui qui va le prendre.
Non, mais c'est, ça se lit comme de tillet. Ça coule tout seul, mais il faut quand même s'accrocher parce que c'est 870
pages. Oui, c'est quand même assez long.
Ouais.
C'est clair, c'est clair. En fait, puisque tu as évoqué plusieurs fois la rentrée littéraire, est-ce que maintenant on peut déjà voir quelques courants qui se dégagent ou bien c'est encore trop tôt? Qu'est-ce qui se passe?
Oui, ça commence. La rentrée commence gentiment. Il y a une sorte de primeurs qui commencent autour de la mi-août. Donc et ça commence gentiment et ça monte en flèche. Ça atteint son acmé septembre-octobre. Et alors, mais juste comme particularité, c'est que cette année... Et la rentrée littéraire a fait une légère cure d'amaigrissement, si tu veux,
ah bon.
Par rapport à l'année précédente. C'est-à-dire que cette année, il va avoir un petit peu moins de romans. C'est-à-dire, l'année passée, il y a eu 567. Et cette année, en tout cas, il va avoir 524. Bon, c'est pas énorme, mais il y a quand même une quarantaine de livres en moins. C'est déjà ça. C'est une quarantaine de livres en moins. C'est casser la tête sur une société ou pas. Et la baisse des livres est surtout chez les Français. C'est-à-dire que c'est la littérature française qui diminue le plus. C'est-à-dire il y aura une soixantaine de livres par rapport à l'année passée, des titres français en moins. Alors que la littérature étrangère traduite augmente légèrement, de deux ou trois titres. Mais voilà. Et donc il y a cette cure dans ma question. Il y a des auteurs dont on parle un petit peu comme Serge Chalandon, comme Karine Tuile, etc., qui proposent des choses intéressantes. Il y a les incontournables, inévitables, comme Amélie Nothomb, bien entendu. Et puis, il y a quelques surprises des jeunes auteurs, des nouveaux auteurs, mais de ça, on parlera, je pense,
le moment venu.
Les moments venus.
Et on a une idée pourquoi il y a cette cure d'amaigrissement?
Écoute, je pense que tout simplement, alors, je ne sais pas s'il y a une politique de concertation ou pas, mais peut-être qu'on a compris qu'à force de trop étendre, on sert peu. Hein. C'est celui qui veut trop accaparer. Sert peu, oui, comme oui. On dit. Donc, je pense qu'ils sont vraiment c'est un peu ciblés mieux. Et il y a des bonnes choses qui se profilent. Et puis aussi, peut-être que c'est tout simplement un peu comme l'histoire du climat. Quoi. Il y a les facteurs humains et puis après les autres facteurs qui sont indépendants.
Ouais. La tendance n'est encore pas assez marquée pour dire non. Ah oui, c'est telle raison.
Non, pour l'instant. Mais je pense que là, un des éléments, c'est que les éditeurs, quand même, étant donné aussi les concurrences qu'il y a à l'édition, etc., ils décident un peu comme quand tu fais un peu de la tu mets moins de produits sur le marché pour le vendre. Donc voilà, c'est peut-être un des éléments. Mais on verra ce qui se passe. En tout cas, c'est... On va voir, mais en tout cas pour les romans étrangers, ça va rester à peu près la même chose.
Il va rester bien assez de quoi lire, de toute façon.
Ah oui, de toute façon, là,
pas de souci.
524 livres en 2 mois et demi,
ça va,
c'est pas rien.
Ouais, ça va. Ben merci.
Écoute, un plaisir.